un bol d'air sous condition pour ce premier week-end déconfiné en France. Les forêts et les plages rouvrent en nombre ce samedi. Certains sites touristiques également, notamment le sanctuaire de Lourdes. Nous irons dans un instant, mais d'abord, attention au relâchement, car vous pourrez circuler, oui, mais sans véhiculer le nouveau coronavirus. Les Français peuvent se déplacer à 100 km maximum de leur domicile. En ce premier week-end d'après-confinement, les forces de l'ordre seront mobilisées pour faire respecter cette règle. C'est ce que nous rappelle le major Philippe Anthony de la région gendarmerie de Franche-Comté ce matin.
Les règles ont changé, nos concitoyens ne connaissent pas forcément l'ensemble des nouvelles dispositions. Donc c'est pour ça que depuis le début de la semaine, nous avons usé de pédagogie lors de nos contrôles. Pour autant, ce week-end, il ne faudra pas penser que c'est un laisser-aller. Si les gens ne respectent pas les directives qui sont en ligne, notamment sur le site du gouvernement.fr, covidgouvernement.fr, eh bien nous serons amenés à verbaliser, naturellement avec discernement.
Rappelons d'ailleurs que seul un motif professionnel ou une raison familiale impérieuse peuvent justifier un déplacement à plus de 100 km de son domicile, sous peine d'amende toujours à hauteur de 135 euros. Une mise en garde donc des forces de l'ordre, alors que le ciel ensoleillé devrait pousser de nombreuses personnes vers le grand air ce week-end. En Ile-de-France, les 39 forêts sont de nouveau accessibles. Idem pour des plages dans le Pas-de-Calais, en Bretagne, le long de l'Atlantique et en bord de Méditerranée. Réouverture également du Mont-Saint-Michel aujourd'hui, de la cathédrale de Chartres ainsi que du sanctuaire de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées dont je vous parlais à l'instant, un lieu fréquenté chaque année par des millions de personnes. La grotte où, selon la religion catholique, la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous en 1858, la grotte ne sera pas directement accessible aux visiteurs ce week-end, mais les pèlerins individuels peuvent tout de même accéder à une partie du site. Une visite limitée, Stéphanie Glésis.
Cette réouverture des sanctuaires se fait sous condition, avec une visite express amputée de son morceau de choix, la grotte. Il sera possible quand même de la voir à la jumelle depuis la rive opposée du Gave qui coupe les sanctuaires en deux. Olivier Ribadeau-Dumas, recteur des sanctuaires de Lourdes.
Les pèlerinages jusqu'à la fin du mois de juillet, il n'y en aura pas. Nous espérons qu'il y en ait quelques-uns en août. Notre économie, elle repose sur le don, elle repose sur les offrandes des fidèles qui sont là pendant les pèlerinages et sur leur participation à la vie du sanctuaire. Nous n'avons aucune ressource directe. Et donc, nous prévoyons qu'à la fin de la saison, au mois de novembre, nous aurons une perte d'exploitation de l'ordre de 8 millions d'euros.
Donc, dès cet après-midi, il faut se contenter d'une visite de 30 minutes chrono idéalement et pas question d'aller poser sa main sur le rocher de la grotte. Sébastien Mézounave, responsable du pôle technique et sécurité.
On arrive sur la rive gauche du Gave, ensuite on bascule par le pont sur la rive droite. Là, cela nous permet d'être face à la grotte, tout en ayant une distance suffisante, soit à la fois entre nous, mais aussi assez loin de la grotte, où une prière continue est toujours assurée par les pères chapelains. Puis nous pouvons ensuite continuer pour aller brûler un cierge.
L'économie de Lourdes dépend à 80% des sanctuaires et d'un tourisme de masse qui, en période de Covid-19, va devoir se réinventer pour survivre.
C'était un reportage de Stéphanie Glésis. Alors la problématique au Vatican en Italie est la même. Le Vatican qui communiquait exceptionnellement cette semaine sur ses finances. Elles vont mal avec une baisse de 25 à 45% de ses revenus ces dernières semaines. La basilique Saint-Pierre, toutefois, se prépare à accueillir de nouveau du public. Ce sera lundi après-demain, après évidemment une désinfection complète du bâtiment et un nombre limité de personnes. Restons en Italie où l'activité reprend donc. Donc petit à petit, un symbole le prouve ces derniers jours, la possibilité de prendre son café à emporter. C'est une institution et une libération pour des millions d'Italiens avec l'ouverture lundi des cafés. Voici le reportage à Rome de Bruce de Galzin.
Un café.
Ce qui frappe en entrant dans le petit café Sant'Eustachio, c'est d'abord l'odeur. Le café est torréfié sur place, mais c'est aussi le vide. Pierluigi est un peu seul.
C'est la première fois que je viens depuis 60 jours. C'est un plaisir. Mais vous savez, la caractéristique du café, c'est d'être bien peuplé. Et alors, c'est un peu dommage qu'on ne peut pas apprécier le café ensemble autre personne.
Pas une chaise sur la terrasse, quelques tables alignées pour poser son café que l'on prend à emporter. Mais c'est déjà ça. Pour Paolo, il travaille au Sénat, juste à côté.
Le café en Italie, c'est le must. Pour nous, le café, c'est fondamental. Pendant deux mois, j'ai utilisé la cafetière à la maison, mais bien sûr, le café au bar, c'est tout autre chose.
Pas de quoi rassurer rassurer encore Raimondo Ricci, le propriétaire du café, et qui a même du mal à croire au retour des clients au bar, mais à distance, lundi prochain.
Les touristes, il n'y en aura pas pendant des mois. Même les gens qui travaillent au Sénat, dans les banques, les bureaux, 70% sont en télétravail. Et les habitants dans le centre historique ne sont pas nombreux.
Alors pour l'instant, Raimondo Ricci laisse ses 12 employés au chômage technique. Et c'est sa fille qui est à la caisse.
C'était Bruce de Galzin depuis Rome pour France Culture. Rome qui vient par ailleurs d'approuver un décret autorisant les voyages à destination et en provenance de l'étranger à partir du 3 juin. Ouverture des frontières italiennes donc d'ici 2 semaines. C'est plus compliqué en revanche dans d'autres pays. L'Espagne refuse par exemple de laisser rentrer des étrangers sans les placer en quarantaine. Idem pour l'Irlande et le Royaume-Uni qui pourrait mettre en quarantaine les Français arrivant dans le pays. Ce serait alors contraire à l'accord obtenu la semaine dernière entre Paris et Londres. Quarantaine obligatoire donc pour tous les ressortissants européens qui se rendent au Royaume-Uni. De l'autre côté de l'Atlantique maintenant, une ville n'arrive pas à déconfiner. Il s'agit de Montréal, où la Covid-19 progresse davantage que dans le reste du Québec et plus encore que dans le pays, le Canada. Le gouvernement a donc décidé d'annuler la reprise des cours dans les écoles primaires. Les familles devront à Montréal garder leurs enfants jusqu'à la rentrée prochaine en septembre, Pascal Guéricola.
Cela fait déjà plusieurs jours que les Montréalais s'attendaient à voir le gouvernement repousser une nouvelle fois le déconfinement. Pour Anouk Maillère, mère de 2 enfants, la décision des autorités clarifie la situation. Par contre, son fils de 9 ans, Victor, regrette la fin abrupte de son année scolaire dans un établissement où il ne reviendra pas à la rentrée.
Quand il en parle, c'est surtout de ça qu'il nous parle en ce moment. J'aurais aimé ça savoir que c'était ma dernière journée d'école, pouvoir prendre le temps de dire au revoir comme il faut à mes amis.
Comme dans plusieurs villes à travers la planète, la pandémie met en lumière les inégalités sociales. La COVID frappe fort dans le quartier Montréal-Nord, un des plus pauvres au Canada, où vivent beaucoup d'immigrés. Souvent employés dans les EHPAD touchés par la maladie, de nombreux citoyens sont devenus contaminés à leur tour. Le documentariste Will Prosper connaît bien le quartier.
C'est les gens qui travaillent, c'est les forces vives qui sont vraiment touchées par ce virus-là. Donc souvent, c'est des gens qui vont peut-être passer plus facilement à travers ça, mais qui risquent de contaminer encore plus les personnes qui sont aînées aussi dans des quartiers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en isolement.
Avec d'autres volontaires, Will Prosper distribue donc des masques, des gants et du gel désinfectant dans Montréal-Nord pour lutter contre l'épidémie.
Au Canada toujours, la compagnie aérienne du pays va licencier plus de la moitié de ses effectifs, soit 19 000 salariés. Air Canada est durement touché par les restrictions de déplacement à cause toujours du nouveau coronavirus. Là aussi, il devrait y avoir des licenciements et la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Prestalis est partiellement liquidé sur décision de justice. Le principal distributeur de presse en France va fermer ses filiales en région. Plus de 500 salariés sont concernés. Il livrait la plupart des magazines et des quotidiens nationaux. La presse encore, et cette annonce dont nous vous parlions hier, le quotidien Libération va être transféré dans une société à but non lucratif. Promesse est faite par le groupe Altice de gagner en indépendance. C'est une première pour un quotidien national en France, mais cela se fait déjà outre-Manche. Le quotidien de gauche The Guardian a fait de même dans les années 30, Laura Calmus.
Il existe depuis près de 200 ans et n'a jamais changé d'orientation politique. Au fil des décennies, le quotidien The Guardian a survécu, alors que la presse britannique vit les mêmes crises financières que ses voisins. Et pourtant, le journal ne fait aucun bénéfice. Le quotidien se félicite même lorsque ses pertes n'excèdent pas les 30 millions d'euros annuels. Son secret date de 1936, lorsque la propriété du journal est transférée à un trust, The Scott Trust, une structure dans le but de préserver l'indépendance du quotidien. Au fil des années, le Trust acquiert progressivement d'autres quotidiens et magazines et génère beaucoup d'argent. Mais dans les années 2010, le quotidien va mal et la structure revend ses autres actifs les plus rentables pour ne garder quasiment que le Guardian. The Scott Trust est aujourd'hui à la tête d'un fonds évalué à plus d'1 milliard d'euros qui génère 30 millions d'euros d'intérêts par an, un modèle qui assure la pérennité du journal. D'autant plus que grâce à cette configuration unique, le quotidien n'est pas sous l'emprise d'actionnaires et l'éditorial n'est sous aucune influence politique ou économique, Le journal ne peut pas non plus être revendu.
C'était Laura Calmus à Londres pour France Culture. Revenons en France métropolitaine pour quelques mots de météo. Le ciel sera calme et ensoleillé ce samedi, un poil plus mitigé sur le sud avec quelques averses et les températures plutôt homogènes avec 15 à 16 degrés au nord de la Loire aujourd'hui, 16 à Bordeaux et à Lyon, 18 à Toulon et 20 degrés à Marseille ce matin.
Ça monte, ça monte.